Merci Jean-Pierre pour cette première partie de culte. C'est un peu drôle de voir autant de lumière comme ça. J'ai pas l'habitude. Voilà, nous sommes bienvenus en tout cas les GBUciens qui sont là pour leur week-end de GBU dans le Grand Est. En tout cas, soyez les bienvenus. Je vais apporter un message donc suite à une série de prédications sur David. Nous avons déjà commencé cette série. Déjà deux fois, c'est la troisième message. C'est le troisième message que nous partageons sur la série de prédications sur David. La dernière fois, j'avais apporté un message sur David et Goliath, un message que tout le monde connaît. Nous étions assez touchés en pensant que oui, dans notre vie personnelle, nous pouvons rencontrer des géants qui semblent être des grands fardeaux ou même des épreuves qui peuvent être insurmontables, mais avec le Seigneur, dans la confiance, nous pouvons être plus que vainqueurs. Nous avons vu ce message. Ce matin, donc, nous allons voir la suite de cette histoire. Après la victoire contre Goliath, ça va, vous êtes attentifs? David est acclamé par tout le monde. Et le roi Saül, bien sûr, était aussi lui-même très heureux de cet accomplissement, au point que tout de suite après, David est propulsé comme chef militaire. Vous voyez, un jeune pauvre berger qui, après avoir vaincu le grand géant Goliath, il devient tout de suite après un chef militaire. Peut-être vous vous dites, mais c'est un peu trop brutal, comment on peut nommer tout de suite, peut-être on a dû attendre plusieurs années. Non, il a été mis vraiment au service tout de suite après. C'est vrai que dans le Proche-Orient, un exploit héroïque a changé instantanément le statut social. Et donc en tuant Goliath, David n'a pas seulement tué un homme, mais il a aussi sauvé l'honneur du pays, l'honneur du roi. C'est comme ça que Saül l'a promu en tout cas en tant que chef militaire. Avant la bataille, Saül avait aussi promis quelque chose au vainqueur de Goliath. Vous vous rappelez? Comment? La fille, oui, effectivement, l'aîné, grande richesse aussi, etc. Et puis l'intégration à la famille royale par le mariage. Pourtant, il ne fait pas tout cela. D'abord, il le place à la tête de gens de guerre pour tester, je pense, si ce héros d'un jour pouvait devenir aussi un chef permanent. Ensuite, il remarque, tout le peuple remarque que David réussissait partout. Là où on le plaçait, il devenait vainqueur. Il menait des victoires avec son peuple. Et on se dit, mais il n'était pas formé, il était juste un berger, comment tout de suite, le lendemain, il pouvait devenir un chef militaire. En tout cas, nous avons vu la dernière fois que le Seigneur l'accompagnait. On peut deviner aussi que le Seigneur lui avait donné plein de sagesse et d'intelligence pour avoir cette autorité. Et de même, on peut aussi voir, dès le début de chapitre 18, Jonathan, le fils de Saül, lui donne son manteau, son épée et son arc. Ainsi, aux yeux des autres soldats, voir David porter l'armure du fils du roi lui donnait aussi une légitimité immédiate pour commander une armée. Au verset 5, chapitre 18, il est dit, cette promotion plaisait à tout le peuple et même aux serviteurs de Saül. Ça veut dire que même les généraux de carrière étaient contents. Ils auraient pu être jaloux de cette promotion, mais non, ils étaient contents parce que David apportait des victoires éclatantes. Et ensuite, le problème commence, puisque Saül commence à moins apprécier David, notamment à cause de son succès auprès du peuple. J'aimerais vous lire à partir de verset 5. Pardon. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué le Philistin, c'est-à-dire qu'après la guerre, ils ont écrasé plein de Philistins, et ils reviennent dans le pays, et les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Après avoir entendu ce chant, Saül fut très irrité et cela lui déplut et il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté ». Voilà, jusqu'ici, notre lecture, on voit vraiment que Saül devient de plus en plus jaloux. Vous savez, quand on compare avec quelqu'un d'autre qui a plus réussi, ben on a tendance aussi à devenir un peu plus jaloux, mais aussi colérique par rapport à cette personne. Et puis, en plus de cela, le résultat de toute cette comparaison, ben le mauvais esprit saisit Saül. Et en voyant David, un jour que David est en train de jouer son harpe, il tente de le tuer 2 fois avec sa lance. En plus, il craint David parce qu'il voyait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Alors que dans les chapitres précédents, l'Esprit se retire de lui. Retire de Saül, je veux dire. Du coup, il veut vraiment le tuer parce que Et on a l'impression qu'il va prendre bientôt sa place. Et maintenant, il le nomme officiellement chef militaire de 1000 personnes. Ensuite, il l'envoie faire plein de batailles pour qu'il puisse, non pas réussir la guerre, mais qu'il soit tué pendant la guerre. Sauf que, il ne meurt pas, au contraire. Il apporte plein de victoires répétées qui renforcent aussi sa réputation de génie militaire. Devant tout cet fait accompli, le peuple voit en David un protecteur et il l'aime encore davantage. Donc sa stratégie de le faire tuer à travers des guerres, des batailles, tombe à l'eau. Et puis il y a un effet boomerang, ce qui fait que David est beaucoup plus acclamé par le peuple. D'ailleurs, au verset 15, il est dit que Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Comme ça ne réussissait pas, il veut toujours le tuer, mais indirectement. Il ne veut pas tuer directement avec son épée. Alors, il manigance une autre stratégie pour le faire mourir. On avait dit tout à l'heure qu'on lui avait promis le mariage avec sa fille aînée, sauf que il la marie, donc l'aînée qui s'appelait Merab, elle est donnée à une autre personne. Par contre, Saül lui dit, tu es pauvre, c'est pour ça que je ne vais pas te donner de dot. Par contre, je te demande d'apporter tes 100 prépuces des Philistins, ça veut dire que tu es 100 personnes. C'est un peu violent quand même, comme mot. Cela nécessite en tout cas un combat rapproché au corps à corps et c'est très risqué en fait. Alors Saul se dit justement que ma main ne soit pas sur lui mais que la main des Philistins soit sur lui. Donc en fait, il veut vraiment le condamner à mort indirectement. Par contre, David encore, et le Seigneur est avec David et il en ramène 200 prépuces des Philistins. Enfin, j'aurais pu dire 200. Enfin, il a pu dire 200 personnes. Enfin, bref, Saül a involontairement donc servi de formateur à David en l'envoyant au front pour le faire mourir, mais il a appris à diriger des hommes, il a appris à survivre dans les conditions hostile, et puis il a appris aussi à s'appuyer totalement sur Dieu. Au chapitre 19, Saül envoie maintenant directement des tueurs, et ces tueurs-là cernent la maison de David. À ce moment-là, Michal, donc la cadette qui a été donnée au mariage à David, elle est amoureuse de David. Elle prévient David en lui disant si tu ne sauras pas, enfin, si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu seras mort. Et donc elle le fait descendre par la fenêtre. Et donc voilà, pour gagner du temps, elle place une idole dans le lit avec un pot de chèvre, etc., etc., pour sauver son amour. Et il s'enfuit auprès de Samuel qui l'avait oint auparavant, le juge, le prophète de l'Éternel à Rama. Saül a entendu que David est maintenant à Rama auprès de Samuel. Donc il envoie 3 groupes de messagers pour capturer David. Sauf qu'à chaque fois, en arrivant près de Samuel et du groupe des prophètes qui étaient déjà sur place, les disciples de Samuel, l'Esprit de Dieu tombe sur ces 3 groupes de messagers de Saül et ils se mettent à prophétiser. Ils étaient donc incapables d'accomplir leur mission, c'est-à-dire d'amener David devant Saül. On peut voir que Saül, le roi qui était sur place, qui était au début béni par le Seigneur, maintenant que l'Esprit est retiré sur lui, il se comporte comme un homme normal qui a soif de son pouvoir et qui ne veut absolument pas partager sa royauté, sa dynastie avec quelqu'un d'autre. Dieu l'a rejeté et maintenant il essaie de manipuler l'avenir par la force et le meurtre pour préserver en tout cas sa dynastie. Voilà donc le personnage de Saül qui est très intéressant. Maintenant, nous allons voir aussi un autre personnage qui est aussi autant très important aussi dans la vie de David. Il s'agit de Jonathan, le fils du roi Saül, le prince héritier qui est censé plus tard remplacer le roi Saül. Or, le texte nous dit, dès que David finit de parler dans le chapitre 18, verset 1, à Saül, il est dit « L'âme de Jonathan » fut attaché à l'âme de David. Jonathan a aimé David comme un frère. Jonathan n'a pas seulement vu en David un guerrier courageux, mais il a vu un homme dont le cœur battait au même rythme que lui pour la gloire de Dieu. En fait, Jonathan était un homme de Dieu aussi. On le voit dans les chapitres précédents, au chapitre 14, il mène une bataille. J'aimerais quand même vous raconter cette histoire parce que c'est très important. Israël était à l'époque dans une situation catastrophique et les Philistins occupaient tout le pays. Le peuple était caché dans les grottes. Et puis plus grave encore, les Philistins à l'époque ont interdit les forgerons pour les Juifs. Et résultat, dans toute l'armée d'Israël, au début de leur histoire de dynastie, seuls 2 hommes possédaient une épée de fer, c'est-à-dire le roi Saül et son fils Jonathan. Vous vous rendez compte? Ils avaient juste 2 épées de fer pour combattre les Philistins. Durant la bataille contre les Philistins, alors que Saül reste assis, c'est tout au début de son trône. Saül reste assis sur un grand nadier avec ses 600 hommes passifs, hésitants, parce qu'ils avaient plein d'armes. En plus, ils étaient placés en haut. Donc stratégiquement, ils étaient plus avantagés. Jonathan décide d'agir en secret. Il dit à son jeune porteur d'armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver par un petit nombre comme par un grand. » C'est une déclaration de foi pure de la part de Jonathan. C'est exactement la même logique que David, qui utilisera plus tard aussi ce genre de logique face à Goliath. Le poste de Philistin se trouvait donc au sommet d'une falaise escarpée. Et Jonathan et son serviteur doivent grimper avec leurs mains et leurs pieds. Et puis, une fois arrivés sur place, ils tuent vingtaine de personnes, vingtaine de Philistins. L'exploit de Jonathan déclenche une réaction en chaîne. Le Seigneur agit, la peur s'empare du camp des Philistins. Et puis, Dieu même envoie un tremblement de terre. La panique est totale et les Philistins commencent à s'entretuer entre eux. Voyant cela de loin, Saül finit par se joindre à la bataille et il remporte la victoire contre les Philistins. Pourquoi cette prouesse de Jonathan est très importante? Parce que lui, il raisonnait un peu comme David. Il avait une grande confiance au Seigneur. Et en voyant justement David, un petit gamin, un petit berger, un pauvre qui vient avec vraiment le courage du Seigneur et battre ce grand géant, Goliath, ça l'avait ému. Il était émerveillé par son courage. Et il voulait devenir justement son ami. Je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas ce genre de choses? Quand vous avez plein de choses en commun, vous aimez être avec cette personne-là, non? Ben, c'est ce qui s'est passé. Jonathan a attaqué une falaise à deux contre un camp entier. De même, David a attaqué un géant avec une fronde. Donc Jonathan reconnaît en David le même esprit de conquête et la même confiance absolue en l'Éternel. C'est pour cela qu'il n'y a aucune jalousie en lui et qu'il respecte David parce qu'il sait ce qu'il en coûte de risquer sa vie pour la gloire de Dieu. Vous savez, dans la relation humaine, dans les relations humaines, il y a deux types de relations. Les personnes, tout d'abord, les personnes qui nous utilisent pour leurs propres intérêts. Est-ce que vous avez vu ce genre de personnes déjà ou pas? Moi, je les appelle, enfin, j'appelle ce genre de relation la relation utilitaire, la relation de consommation. On reste avec l'autre tant qu'il nous apporte quelque chose de bien. Hein? C'est-à-dire que, voilà, il peut être bénéfique pour moi, je pourrais peut-être gagner un peu plus d'argent avec lui, ou encore avoir plus de statut, avec plus d'honneur ou plaisir aussi. Mais dès que l'autre devient coûteux ou inutile, bah, l'utilisateur s'en va. Et c'est le comportement de Saül envers David. Il l'aimait tant qu'il bat ses ennemis. Mais dès que voilà, il voit vraiment une acclamation totale et l'amour que le peuple porte vis-à-vis de ce David, bah, il devient trop jaloux et donc maintenant il veut le tuer. Parce que son ego a été touché. Les véritables amis, par contre, sont ceux qui nous acceptent tels que nous sommes. Ils partagent leur cœur, ils partagent leur vie même avec nous. Un véritable ami est celui qui reste à nos côtés, même si tout le monde nous abandonne. Un véritable ami est celui aussi qui ose dire la vérité, même quand tout le monde approuve quelque chose de faux. Et surtout, surtout, j'aimerais vous dire que nous, en tant que chrétiens, un véritable ami est celui qui nous aide à rester fidèles à Dieu et à la vérité. Vous savez, c'est plus difficile de tirer vers le haut que vers le bas. Si vous avez un ami qui est dans le monde, c'est plus facile d'avoir une vie de compromission avec le monde. Puisque lui, il tire de bas. Dans ce contexte sombre où Jonathan voit son père vouloir tuer David, il devient un ami exceptionnel. Il veut l'aider, il veut le protéger. Et surtout, il voit quand même qu'il y a une différence sociale, enfin de statut. Jonathan est le prince héritier, David est un simple berger, mais il veut être vraiment son ami. Malgré l'hostilité de son père, il veut vraiment le protéger. Et David aurait pu justement prendre sa place de prince ou même devenir le roi, mais ça, il s'en foutait vraiment. Jonathan choisit de l'aimer comme sa propre vie, et cette amitié est possible parce qu'il partageait la même foi en Dieu et la même conviction. Dans le chapitre 19, on voit Saül ordonner ouvertement à Jonathan et à ses subalternes de tuer, maintenant que voilà, les meurtres indirects ont échoué, Il veut maintenant le tuer directement et il ordonne à Jonathan de le tuer. Et Jonathan, au lieu d'obéir, Jonathan cache David. Il confronte même son père. Il plaide la cause de David avec courage, rappelant à Saül que David a risqué sa vie contre Goliath et que le tuer serait un péché contre le sang innocent. Saül semble touché et il jure que l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Donc David revient même à la cour et la paix est de courte durée pourtant. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que, voilà, Jonathan veut le protéger absolument. Et ensuite, il apprend encore que, voilà, son père veut encore le tuer. Et chapitre 20, il le protège. Il lui dit un dernier adieu en disant que, voilà, c'est sûr que mon père veut te tuer, il faut que tu t'enfuis. Et c'est comme ça qu'il y a eu une scène d'adieu entre les deux. Est-ce que vous avez des amis comme ça autour de vous qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vous apprécient pour ce que vous êtes aussi, qui est là pour vous renforcer votre foi, vous encourager, vous exhorter quand vous êtes dans la difficulté ou pas? C'est une bénédiction d'avoir des amis comme ça. C'est une bénédiction d'avoir des amis avec qui nous pouvons prier. Ça, c'est vraiment très important. Quand j'étais à Vaux-sur-Seine, j'ai rencontré un ami très cher. Il s'appelle Alexandre Nussbaumer, vous le connaissez sûrement, puisqu'il était déjà venu chez nous pour le culte en commun. Il a apporté un message en octobre dernier. Lui, on avait plein de points en commun. Il aimait le sport, il aimait le foot. Il aimait aussi le ping-pong, il aimait le tennis, comme moi, il aimait le volley, on était vraiment bons aussi dans le sport, donc du coup, on était tout le temps ensemble. Et puis en classe, on était tout le temps assis presque ensemble, tout le temps. Et puis une fois devenu pasteur, avant de devenir pasteur, je l'ai vu, je me suis dit, il était à l'école déjà serviable. Quand quelque chose manquait, il achetait de sa poche, pour offrir aux autres. Je me suis dit, mais c'est un vrai chrétien. Alors qu'il y avait tellement d'autres étudiants en théologie, je me suis dit, mais celui-là, c'est un vrai pasteur. Celui-là, c'est un vrai pasteur. Et si lui, il est ménonite, je veux bien être ménonite. C'est pour ça que je suis allé chez les ménos pour être pasteur. Et c'est comme ça que nous avons, pendant des années, ensemble, entretenu notre relation. Et puis il y a 13 ans de cela, juste avant de venir dans cette église, je lui ai dit, pendant notre dernier séminaire pastoral, j'ai dit à Alex, je vais bientôt changer d'union, on ne se reverra plus jamais, enfin comme avant, hein, on ne sera plus jamais, etc. etc. Et puis on était tellement touchés qu'on a pleuré ensemble. Mais non, il ne faut pas... C'est pas un adieu définitif. Hein. On était toujours en France, on pouvait aussi... Mais c'était pas la même chose. Du coup, on a prié ensemble. C'était vraiment super d'avoir des amis avec qui nous pouvons prier, exhorter, et quand nous sommes dans des difficultés, échanger des sujets de prière pour intercéder les uns des autres. En tout cas, j'espère que vous avez ce genre d'amis autour de vous. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse pour avoir ce genre d'amis. J'aimerais conclure. Nous avons vu aujourd'hui deux trajectoires opposées. D'un côté, Saül, le roi qui s'agrippe à une couronne qui lui échappe. Et de l'autre, Jonathan, le prince héritier, qui renonce à tout par amour pour la vérité et pour David, qui est loin de Dieu, qui est l'homme de Dieu. David n'est pas passé directement de la gloire contre David, de la victoire contre David, au trône de Jérusalem. Il n'est pas devenu roi tout de suite après. Il a dû passer par l'école de l'adversité. Et parfois Dieu permet que de Saül se lève contre nous, non pour nous détruire, mais pour nous apprendre à dépendre davantage, totalement, de notre Seigneur. Et aussi à diriger dans l'humilité, à survivre dans des conditions hostiles de la vie. J'espère en tout cas que voilà, vous puissiez discerner cela et faire confiance davantage au Seigneur. L'histoire de Jonathan nous met aussi au défi. Dans un monde de relations utilitaires, où l'on se rapproche des gens pour ce qu'ils nous apportent, Jonathan, lui, nous montre une voie bien différente. Il a vu en David, non pas un rival, mais un miroir de sa propre foi. Il a préféré perdre son trône plutôt que de perdre son intégrité devant Dieu. Et puis, la question qu'on pourrait se poser, c'est sommes-nous capables de nous réjouir de l'élévation d'un frère ou d'une sœur, même si cela nous semble, nous fait de l'ombre? Sommes-nous des amis qui fortifient la main des autres en Dieu? Est-ce que nous sommes capables de supporter que les autres soient supérieurs à nous? Timothée Keller, un pasteur et aussi un théologien, comparait souvent Jonathan comme une préfiguration de Jésus. Il disait que Jonathan, oui, était le prince, mais il a enlevé sa robe, parce qu'il a donné sa robe, ses armes, son arc à David. Il a enlevé sa robe pour la donner à un berger persécuté. Et puis Jésus, lui, est le roi des rois. Il a quitté sa gloire pour nous revêtir de sa justice. Jonathan a plaidé pour David devant un roi furieux au péril de sa vie. Jésus plaide pour nous devant le Père et a donné sa vie pour nous. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période où, comme David, vous êtes injustement persécuté. Ou peut-être, comme Jonathan, Dieu vous appelle à soutenir quelqu'un d'autre au lieu de chercher votre propre gloire. Que le Seigneur vous donne un bon discernement pour voir ce genre de cas. Sachez qu'en tout cas, que l'amitié n'est pas un sentiment, mais c'est un sacrifice. David a survécu au désert parce qu'il savait qu'il était aimé par Dieu, mais aussi par son ami fidèle. Que vraiment, sur votre chemin, que le Seigneur vous accorde aussi ce genre d'amis avec qui vous pouvez partager de l'intimité spirituelle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous à ne pas être des utilisateurs comme Saül, mais des amis d'alliance, des amis fidèles comme Jonathan, qui est prêt à se sacrifier pour son ami. Merci pour Jésus, qui est devenu l'ami suprême, qui a déposé sa couronne pour nous. Merci vraiment pour son exemple, son modèle, que nous puissions vraiment le suivre davantage. Et nous voulons encore te prier pour que nos vies reflètent cette loyauté, cette fidélité et ce sacrifice que Jonathan a pu montrer vis-à-vis de David. Seigneur, dirige-nous. Que cette semaine soit aussi une semaine victorieuse pour chacun d'entre nous. Nous te remettons vraiment, Seigneur, nos vies entre tes mains. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Les annonces.